au réseau Cogeco. Cogeco. Vous écoutez les week-ends de Paul Oud.
9h37, joyeuse Pâques à tous et à toutes. Et Thérèse, quelques commentaires de nos auditeurs et auditrices concernant leurs anecdotes de mariage.
Oui, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent, mon frère s'est marié à Saint-Philémon, comté de Bellechasse. Nous étions dans un petit village et tout le monde se connaît. On a réservé l'hôtel du village au complet pour notre famille. Ça a été une noce mémorable. Tout le village est venu voir la mariée à l'église. Le lendemain matin, évidemment, on cherchait un resto pour déjeuner. Il y en avait un dans le village. On était une trentaine. Le seul restaurateur du coin était couché et bien paqueté de la veille. Il avait un cognac à la main. Il était venu aux noces. Il a dit « Entrez dans mon resto, puis allez vous servir vous autres-mêmes ». On s'est mis à la tâche, on s'est fait déjeuner, tout le monde ensemble. Et lui nous regardait, son cognac à la main, il était fier de nous autres. On a eu un plaisir fou. On était complètement dépassés au début, mais c'était un souvenir mémorable pour toute la famille.
C'était pas un restaurant seulement où on apporte son vin.
Non, on se sert
soi-même.
Exactement. Il y a une anecdote qui nous a été racontée. J'ai été dans le mariage d'un ami et la fille d'honneur de la mariée était venue en fait de Colombie-Britannique avec son chum. Et au cours de la soirée, ils se sont mis à chercher le chum de cette fille-là, la fille d'honneur.
T'as disparu.
Le chum manquait à l'appel. Puis là, ben tout le monde disait oui, mais c'est quand la dernière fois tu l'as vu? Alors la fille d'honneur lui dit écoute, il est en train de jaser avec le monsieur qui était assis à cette table-là, puis on jasait longtemps, puis on prend un verre ensemble, mais je le vois plus, je me demande où il est. Et évidemment, là, ils savaient plus où ils étaient. Ils ont cherché les deux hommes. Les deux hommes étaient dans la chambre.
Ah, ils étaient partis ensemble.
Ils étaient partis ensemble dans une chambre. Alors, ils se sont rendus compte qu'ils étaient devenus très, très, très proches. Et la mariée, à un moment donné, une des mariées avait tellement peur que les invités arrivent en retard. Alors, sur le faire-part, elle a insisté, puis elle a dit à sa mère, faut inscrire 15 heures parce que, tu sais, tout le monde arrive en retard, puis trop serré, puis moi, ça va m'énerver. Alors, elle a inscrit 15 heures alors que la cérémonie était à 16 heures. Donc, la majorité était déjà sur le parvis de l'église.
Les gens poireautaient pendant une heure.
À 14h45, mélangé avec le mariage d'avant.
Mais comme le mariage où la mariée s'était pas présentée.
Ben oui.
Et les familles de deux mariages se sont croisées sur le parvis de l'église.
Oui, vas-y.
Ben là, je voulais vous présenter quelqu'un qui est heureusement marié depuis 27 ans, nous a-t-il dit. Monsieur Ray Lalonde.
Oui.
Bonjour tout le monde.
Salut Ray. Salut Ray.
Félicitations, c'est beau, 27 ans.
Absolument. Magnifique. On travaille fort, Paul.
Oui, ben oui, il faut travailler son couple. Écoute. Hier, Ray et moi, j'ai reçu son courriel. Il me demande si j'ai regardé. Voyons donc. Hier, c'était le Final Four. On allait connaître les deux universités qui vont s'affronter demain soir à Indianapolis, au Lucas Oil Stadium, pour la grande finale. Et là, Gonzaga, qui n'avait pas perdu un match de la saison, affrontait une université légendaire, UCLA. Ben, ça s'est gagné pour Gonzaga sur le son de, appelons ça, de la sirène. En anglais, on dit le buzzer.
Oui. Paul, c'était, je te le dis, ça fait 45 ans que je regarde des matchs du Final Four, le tournoi. Je me rappelle de 82, Michael Jordan, joueur recrue avec les Tar Heels qui, sur le dernier tir du match, il reste à peu près 8-9 secondes, remporte la victoire contre les Hoyas de Georgetown avec Patrick Ewing, entraîné par, à l'époque, John Thompson. Ça remonte à longtemps. Des matchs, là, absolument spectaculaires. Mais ce qu'on a vu hier, Gonzaga 93, UCLA 90, en fin de période de surtemps, littéralement, Gonzaga, invaincu de la saison, ont jamais presque tiré de l'arrière. Tous leurs matchs, à part un seul, ont été gagnés par 10 points ou plus. Hier, ils se sont fait pousser jusqu'à la limite. Et ils sont sortis victorieux. C'était un match mémorable. Je te garantis, on en parle encore dans 25 ans.
Absolument. Et ils vont affronter une grande université du Texas, Baylor, qui a battu une autre université du Texas, Houston, hier. Oui. Et ça va faire toute une finale demain soir.
C'est comme, honnêtement, Paul, ces deux équipes-là, c'était comme un rendez-vous qui était prévu depuis à peu près 2 ans. Ils sont toujours au sommet, sont toujours très, très performants. Et là, ils vont s'affronter en finale. Baylor, les Baylor Bears, en vert et en blanc, qui est situé à Waco, au Texas, contre Gonzaga, qui est situé dans l'État du Washington. Personne ne connaît vraiment Gonzaga.
Oui, mais c'est à Spokane.
Exactement.
Et Gonzaga, écoutez, c'est une université catholique, parce que c'est très confessionnel, hein, les universités.
Tout à fait.
Alors, c'est une petite université catholique, magnifique d'ailleurs, à Spokane. Et c'est un Italien qui a fondé l'Université Gonzaga au 19e siècle. Ça ne date pas d'hier.
Alors donc, Paul, c'est vraiment une équipe qui n'est pas une grande institution, comme tu l'as dit, qui n'est pas comme Ohio State ou Michigan, mais qui réussit depuis quelques années à dominer le basketball masculin. Alors, il mérite d'être là. Ça va être un match incroyable. Paul, la dernière fois qu'une équipe a fait une saison complète invaincue pour remporter le titre, c'était les Hoosiers d'Indiana avec Bobby Knight comme entraîneur. Je pense que c'était en 1976.
Le légendaire Bobby Knight.
Et Paul, je veux souligner les femmes aussi ce soir. Les femmes, Stanford et Arizona ce soir dans la finale chez les femmes.
Alors, passons au baseball. Tes observations depuis le début de la saison, la courte période du début de saison, c'était il y a quelques jours à peine.
Oui, c'était jeudi. Bon, d'abord, un seul match retardé ou remis à cause de la pluie, mais une série complète, Mets Nationals, remis à cause de la COVID. Ouais. Le baseball est ambitieux cette année, Paul. Ils veulent jouer 162 matchs. Ils en ont joué 60 l'an dernier, avec raison. Ils veulent générer les revenus. L'an dernier, ils ont laissé plus d'un milliard sur la table en termes de revenus d'équipe et de ligue, mais 2,5 milliards de revenus de salaire de joueurs. Fait que c'est les joueurs qui ont forcé le baseball à jouer tous les matchs cette année. Ça va être difficile de se rendre jusqu'au bout sans s'accrocher, mais j'ai confiance. De toute façon, même si on finit l'année avec des équipes qui n'ont pas joué les 162 matchs, on va trouver une façon d'avoir un bon classement et un circuit intègre pour cette année. Mais ça va être un gros défi. Qu'en plus, Paul, hier soir, Yankees-Blue Jays, tu sais, il y avait 10 000 personnes. Baltimore contre les Red Sox, il y avait 4 500 personnes. Tampa Bay contre les Marlins, 6 100. Tu sais, on rentre à peu près 10-15% dans les gradins. Et demain soir, au Texas, je pense que c'est la visite des Blue Jays. Ouais. Eux autres ont l'intention d'en mettre 40 000 dans le stade.
Ça compte demain, oui. Écoutez, moi, j'allais regarder les deux matchs des Blue Jays contre les Yankees hier après-midi. Ça fait du bien d'avoir du monde dans les estrades.
Ah, c'est incroyable.
Malheureusement, pour Giancarlo Stanton, c'est synonyme de huée. Mais... Oui, les gars, vrai. Le problème, là, je vous le dis, là, j'avais hâte. Là, moi, quand la saison commence, là, je prévois ça là, cet après-midi-là à 13h d'aller sommeiller devant du baseball.
Oui, monsieur.
Les deux matchs, Paul.
Sommeiller. Non,
les deux matchs, Paul, ont duré 4 heures.
Oui. Mais il a raison, Martin, c'est un sport de détente, Ray.
Ça fait absolument. Puis c'est ce que Martin mentionne, la durée des matchs, c'est le plus gros problème du baseball, c'est la durée des matchs vis-à-vis une clientèle plus jeune. Ouais. C'est pour ça que c'est difficile pour eux d'être connectés, engagés avec une base de partisans plus jeunes, plus dynamiques, plus techno, qui n'ont pas le 3 heures, 4 heures à passer pour des matchs.
Ray, c'est un peu comme le discours sur l'état de la nation que fait le président en janvier. Dis-nous, quel est le portrait financier des équipes en ce début de saison?
Ben, ça part de deux équipes, les Marlins et les Rays, qui valent à peu près 1,1 milliard chacun, jusqu'aux Yankees de New York, les rois de l'Empire, The Evil Empire des Yankees, 6,7 milliards. Paul, les Yankees, cette année, ont pris le premier rang dans le monde entier, au-delà de Barcelone, Real Madrid, Manchester United, au-delà des Cowboys de Dallas. 6,7 milliards de dollars pour une franchise de sport, c'est du jamais vu. Les équipes valent en moyenne 2,2 milliards US. Fait que, faut toujours s'attacher correctement lorsqu'on parle de sport professionnel. Beaucoup d'argent potentiel, ça peut être très rentable, mais c'est très coûteux d'entrer dans ce jeu-là et de jouer avec les grands.
Alors, les grands ont décidé de jouer contre les Yankees dans un sens. Les Dodgers ont décidé cette année de dépenser sans bon sens.
Oui, les Dodgers qui ont gagné la Série mondiale l'an dernier, Paul, sont au premier rang au niveau des salaires, la masse salariale. N'oublie pas, il n'y a pas de plafond. Ils vont dépenser cette année 234 millions de dollars. Et ils veulent gagner à tout prix. La limite permise au baseball cette année, c'est-à-dire une limite pour être taxé ou non. Fait que c'est pas comme un cap salarial, c'est que si tu dépasses 210 millions, là tu paies une taxe de luxe qui va t'en coûter entre 50 et 75 millions de plus. Ça dépend de la formule, ça dépend du nombre de fois que les Dodgers dépassent la limite permise. Mais eux, de toute façon, ils ont beaucoup d'argent, sont comme les Yankees. Il n'y a aucune limite. C'est ça qui rend le baseball un peu inégal et difficile. Parce que le salaire des Dodgers de 234 équivaut à 4 autres clubs en totalité.
Mais c'est ça. C'est pas comme dans la NFL, Martin et Ray, où tu peux avoir une toute petite communauté comme Green Bay. C'est tout petit, Green Bay.
Tout à fait.
Et qui est capable de tenir tête aux Giants de New York, aux 49ers de San Francisco ou aux Cowboys de Dallas.
Parce qu'ils ont une masse salariale égal et ce qu'on appelle dur, c'est-à-dire il y a pas d'excès, on ne peut pas dépasser.
Les pénalités
sont dures.
Les
Dodgers vont où ils veulent, les Yankees, les Red Sox le font communément aussi, et c'est pour cette raison qu'ils sont capables. Écoute, 3 des 10 plus hauts salariés du baseball jouent pour les Dodgers. Ça te donne une idée. Puis ça, c'est des gars qui gagnent 30 à 35 millions par année. Des Mookie Betts, des Clayton Kershaw. Fait que c'est pour ça qu'ils tapent avec 3 joueurs déjà 100 millions. Puis il y a bien des équipes qui en dépensent 50. Alors, ça rend les choses inégales.
C'est clair. Mais il y a une pénalité au football qui est beaucoup plus coûteuse qu'au baseball. Au baseball, on redistribue de la richesse. Tandis qu'au football, on handicape l'année suivante puis l'année suivante. D'ailleurs, pour la taxe au baseball, Ray, quand les Red Sox ont décidé de vendre tous leurs joueurs coûteux puis de recommencer, c'est parce qu'on ne voulait plus être dans cette taxe-là. On a vu les Yankees également essayer de se sortir de cette taxe-là également. Donc,
oui, mais c'est parce que c'est des décisions que les entreprises prennent pour gagner à tout prix. Ça a un avantage, c'est que tu peux te distancer de la compétition immédiatement, mais il faut que tu sois capable d'assumer la facture à la fin. Mais les Yankees n'ont jamais eu de problème avec ça. Mais il y a une seule équipe pour le moment qui est là cette année, c'est les Dodgers.
Martin a parlé des Red Sox. LeBron James, super méga star du basketball, a décidé d'investir dans les Red Sox.
Oui, Paul, le Fenway Sports Group représente les intérêts marketing de LeBron James depuis 2011. Alors, il y a eu comme une affinité naturelle. Puis LeBron James a acheté 2% de Liverpool dans la Premier League en Angleterre, qui est la propriété de Fenway Sports Group. Mais là, la semaine dernière, il a confirmé 1% d'achat des Red Sox. Mais la raison pourquoi je vais en parler, 1%, ça vaut pas beaucoup. C'est simplement que quand un gars comme LeBron James s'amène dans le baseball, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne chose. Quand on parle d'être cool puis d'être pertinent, quand LeBron James décide d'investir quelque part, les gens autour du baseball doivent se réjouir parce que lui amène avec lui tout le following, tout le suivi possible, et les 200-300 millions de personnes qui le suivent vont apprécier que LeBron James aime le baseball. Mmh. Alors, c'est une bonne chose en termes de rajeunissement, en termes de connexion que LeBron James... Puis lui va être capable aussi d'amener de la diversité avec une équipe, les Red Sox, qui n'ont jamais été reconnus comme une équipe très diversifiée, qui ont eu beaucoup de problèmes avec des éléments discriminatoires et racistes.
Oui, mais là, ils sont en train de faire un virage important, il faut le souligner.
Tout à fait.
Juste pour ajouter à ce que Ray vient de dire, ça rejoint ce que LeBron fait avec Patrick Mahomes. Patrick Mahomes qui a investi dans les Royals de Kansas City. Ça aussi, tu sais, c'est la jeune vedette montante du football de la NFL qui investit dans le baseball.
Son équipe locale, oui.
Absolument.
Coup de chapeau à Barack Obama qui a rendu hommage aux autorités du baseball majeur hier pour avoir retiré la présentation du match des étoiles et le repêchage à Atlanta à cause de cette nouvelle loi électorale jugée discriminatoire. C'est un beau geste, ça, de la part du baseball majeur.
Oui, Paul, parmi toutes les nouvelles du baseball, honnêtement, c'est la plus grosse nouvelle. Ouais. Le baseball a finalement attaché ses souliers, puis mis ses pantalons. Et Rob Manfred, que j'ai souvent critiqué pour avoir été un peu trop laxiste, et puis surtout dans le scandale des Astros de Houston, bien là, cette fois-ci, il s'est prononcé. Alors, le baseball ne jouera pas son match étoile à Atlanta pour des raisons politiques et sociales. Ouais. Et le baseball utilise son influence, sa plateforme, sa popularité. Et les sportifs, en principe, sont tous derrière lui pour se retirer d'Atlanta, ce qui est une excellente décision.
Merci beaucoup, Ray. Bonne semaine.
Bonne semaine, tout le monde.